Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'émission Art Interview avec Julie Chaise-Martin. Aujourd'hui, nous allons parler d'art au pluriel à l'occasion de l'ouverture prochaine du Salon d'automne sur les Champs-Élysées qui se tiendra du 10 au 13 octobre. Mais pour cette 116e édition, et oui, ce salon artistique historique existe depuis 1903, nous allons parler un peu plus de photographie avec mon invité, qui est l'invité d'honneur du salon, le photographe Michel Kirsch, rompu aux expositions et aux rendez-vous photographiques. Il a posé son regard omniscient et poétique sur le monde. Ses compositions, toujours en noir et blanc, sont soucieuses d'esthétisme et fortes en symbolisme. Michel Kirsch semble vouloir cadrer l'incadrable, la fuite du temps, la beauté du monde, nos rêves et nos fantasmes, ce qui nous échappe. La lumière, comme trésor à saisir, s'insinue dans ces images composées de sphères, pyramides, tours de Babel, lignes, entre mémoire des origines et inventions géométriques. Des folies et des paysages contemporains, au-delà du miroir de la réalité, qui nous renvoient finalement toujours à notre moi intérieur. Des peintures photographiques très philosophiques en somme, qui nous incite à trouver, ou plutôt même à chercher encore et encore, une voie. Vous dites d'ailleurs vous-même, Michel Kirsch, la plupart des limites sont nécessaires à la vie, les franchir est nécessaire au rêve. Bonjour à vous, Michel Kirsch, et merci d'être ici en studio sur Art District. Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà cette petite introduction qui, je l'espère, va donner envie d'aller regarder évidemment vos photographies, de vous découvrir donc au Salon d'automne, de rêver un peu, pourquoi pas, à travers cette conversation. On va essayer de mieux vous connaître et on va aussi évidemment revenir sur cette actualité. Le Salon d'automne, donc, dans quel état d'esprit, quel regard vous avez sur cette invitation qui vous est faite d'être l'invité d'honneur du Salon d'automne cette année ?
J'en suis bien sûr très honoré, vu les illustres prédécesseurs qui se sont succédés depuis la naissance de ce salon en 1903. Et de plus, c'est la première fois qu'un photographe y est l'invité d'honneur, donc je suis doublement honoré. Et c'est un événement qui est institutionnel, qui est historique, donc ça assoit quelque chose pour soi-même et voilà, que du bonheur.
Alors oui, effectivement, ce salon d'automne, c'est un salon très ancien qui a vu passer vraiment les grands noms de l'art moderne, qui a vu se défricher les grands courants comme le fauvisme ou le cubisme, donc au début du siècle. Quelle image vous aviez finalement du salon d'automne avant d'en être l'invité d'honneur ? Est-ce que vous aviez déjà participé ? Si vous avez un souvenir justement sur ce salon ?
J'ai participé au Salon d'automne international à Jaffa, qui était un événement un peu particulier, donc j'ai eu plaisir d'y être. Sinon, ce salon a eu des hauts et des bas, et il a toujours rebondi. Et aujourd'hui, la preuve que la photographie est mise en lumière est la preuve de son évolution naturelle.
Oui, voilà, comme vous dites, effectivement, cette édition en particulier, donc vous en êtes l'invité d'honneur en tant que photographe, et je crois qu'il y a la section photographie aussi qui va être particulièrement mise en valeur cette année. Mais il faut dire que le Salon d'automne, aujourd'hui, c'est plus de 870 artistes, tout médium confondu, hein, c'est ce que je disais en parlant d'art au pluriel, même si aujourd'hui on va un peu plus parler de photographie. Mais c'est vrai que finalement, on se dit que c'est presque trop. Où est la pertinence sur autant d'artistes ? C'est aussi une chance, mais en même temps, on peut s'y perdre peut-être.
Alors, moi je conseille à tous les gens de se perdre un jour dans leur vie. Hein. C'est là qu'on fait les belles découvertes. Ce foisonnement, il exprime une vitalité. Donc justement, c'était le but des fondateurs du Salon d'automne, c'est d'exprimer une vitalité qui ne soit pas un formatage, soit par les critiques, soit par les institutionnels de l'art. Là, on a un foisonnement, puis après, les choses fortes se révèlent. Mais ce foisonnement est nécessaire. Ça exprime une vitalité forte qui à mon avis, est riche.
Et il faut souligner alors que le parrain de cette édition cette année, c'est le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir, qui peut-être du coup met une petite note philosophique et méditative sur cette édition. Je crois que ça n'est pas... c'est quelque chose qui vous plaît évidemment parce que vous avez peut-être des points communs avec cet écrivain.
Oui, c'est vrai que c'est sur ma proposition d'ailleurs qu'il a été invité et je suis vraiment heureux qu'il ait accepté cette invitation. Suite à la lecture d'un de ses derniers livres qui était Le Miracle Spinoza, j'ai trouvé un talent assez extraordinaire de simplifier sans le dénaturer Spinoza. Mm. Et bon, moi, dans mon travail, Je fais toujours attention à la notion du sens, c'est-à-dire l'esthétique, la beauté sont des instruments du sens. Et dans cette optique-là, Frédéric Lenoir, je trouve que ça va à merveille, quoi.
Il y a la notion de quête. C'est oui. Quête de sens, oui. Quête de...
De poésie, de philosophie, de sens de la vie, un regard toujours pertinent et en même temps assez amusé sur le monde. C'est pas un homme qui se prend au sérieux, pourtant il dit des choses vraiment essentielles.
En parlant de ça, une de vos dernières séries s'appelle L'Éveillé ou Les Éveillés, je crois, pardon, excusez-moi.
Ah, c'est plutôt une de mes premières séries.
Ah, c'est une de vos premières séries, pardon.
Enfin, c'est une série que je continue, que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle.
Ah voilà, donc c'est une série intemporelle.
Voilà, mais un peu comme toutes les séries de mon travail, c'est-à-dire je travaille sur une douzaine de thèmes et ils continuent d'évoluer avec moi, voilà.
Alors justement ce terme, Michel Kirch, l'éveilleur, c'est le titre d'un texte d'Edgar Morin qui soutient et qui admire votre travail, ça vous convient bien ?
Oui, bon, déjà ça va très bien avec le thème les éveillés, puis l'éveilleur de la part d'un homme aussi lumineux qu'Edgar Morin.
C'est... Encore une fois un philosophe, décidément, oui. vos photos apparemment suscitent chez les philosophes beaucoup de bonheur, de plaisir, d'interrogation sûrement, puisque la philosophie c'est quand même s'interroger.
Oui, mais c'est une deuxième vie, la création photographique, une deuxième vue professionnelle, parce que j'ai toujours été artiste dans mon cœur et dans mon âme depuis que je suis enfant, mais c'est une deuxième vie professionnelle, et si j'ai tout lâché, c'est vraiment pour des choses qui me tiennent à cœur et qui ont une importance existentielle pour moi.
Alors une deuxième vie, parce qu'effectivement ça fait une dizaine d'années que vous êtes photographe, plasticien, c'est un terme auquel vous tenez mais on y reviendra juste après. Avant vous avez, je sais que vous avez fait des études de médecine, vous venez d'une famille de musiciens, comment vous êtes venu à la photographie, quel a été le déclic, est-ce que c'est une pratique que vous faites depuis longtemps en tant qu'amateur finalement, comment ça s'est fait?
Alors l'art a toujours été présent dans ma famille, hein. J'ai une maman qui a été soliste à la Scala de Milan en tant que soprano lyrique, j'ai un papa qui chantait, un frère qui était un très grand flûtiste classique, une sœur aussi qui avait un petit conservatoire de chant. Et moi-même, j'ai fait un prix d'orgue. Donc,
mais tout ça, jeune, un prix d'orgue.
C'était le désir de mes parents. Tout ça, ça m'a construit. Mais là où je m'exprimais artistiquement le mieux et là où j'ai été le plus libre, c'était la poésie quand j'étais adolescent et jusqu'à 25 ans à peu près. Et puis, je suis parti un jour, après mes études, je suis parti au Sahara, j'avais assez d'argent pour m'acheter une Jeep et un appareil photo. Mais l'appareil photo, c'était pour fixer des paysages, parce que j'avais l'intention d'écrire dessus, à la façon d'écrire un voyageur. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que la photo devenait un véritable langage visuel.
Et alors, la médecine dans tout ça ?
Eh ben,
elle
ça,
a
c'était,
été abandonnée.
Le désir de mes parents. Bon, j'ai exercé assez longtemps. J'ai aimé ça. J'ai aimé mes patients. Mais je suis venu à un moment donné à ma vocation profonde, qui était celle de m'exprimer poétiquement sur le monde, sur moi-même.
Et alors, il y a eu des grands voyages. Hein, comme vous le dites, vous avez parcouru le monde.
Alors, j'ai parcouru le monde jusqu'au moment où j'ai compris que le monde, il était en moi.
Oui, mais il faut peut-être passer.
Oui, il y a des étapes à franchir.
Cette étape,
parcourir le monde, je le fais encore, mais pour mon travail, j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Mais ça a été très nécessaire pour une déconnexion mentale, pour connaître d'autres civilisations, pour connaître les autres, pour avoir du recul sur ce qu'on vit ici. Et tout ça est très stimulant pour une pensée artistique.
Et alors dans tous ces lieux, dans toutes ces rencontres, dans toutes ces images que vous avez donc fixées dans votre mémoire, est-ce qu'il y en a une qui particulièrement est un souvenir artistique fort ?
C'est plutôt des souvenirs humains. Parce que le travail artistique se fait quand je reviens, parce que je suis d'abord un photographe, d'accord ? Je vais chercher de la matière première. La photographie, chez moi, c'est une matière première. Après, je convertis cette matière. J'ai un travail de plasticien mon atelier. Et ce n'est plus l'inconscient, c'est le conscient qui prend la relève. Et j'exprime ce que je pense du monde, de mon travail, de moi-même. Je l'exprime patiemment jusqu'au moment où, à la façon d'une phrase musicale, l'image me répond et je sais qu'elle est aboutie.
On a l'impression que les grands espaces, quand même, ont quelque chose chez vous qui... Voilà, vous avez été au Sahara, au Sinaï, dans le Haut Atlas, et c'est vrai que vos photographies ont cet horizon toujours, cette profondeur qu'on pourrait dire mentale aussi d'ailleurs. Hein. Mais il y a cette sublimation un peu du vide, souvent.
C'est vrai que j'ai la jouissance de l'infini. C'est-à-dire que les paysages sont une métaphore incarnée directe, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être un morceau de musique, ça peut être... C'est la sensation d'infini qui me touche. Et donc, j'essaye aussi de la retranscrire dans mon travail.
Alors, en parlant de musique, justement, on va faire une petite pause parce que je vous ai demandé, c'est un peu la tradition dans cette émission, de faire un petit choix musical. On va commencer par écouter Nina Simone, I Want a Little Sugar in My Bowl. Et on se retrouve juste après et on va en dire un petit mot après.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. So they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
De retour dans l'émission Art Interview sur Art District Radio en compagnie de mon invité Michel Kirsch, photographe, plasticien, invité d'honneur du prochain salon d'automne qui se tient très prochainement justement du 10 au 13 octobre. Michel Kirsch, on a commencé à parler un petit peu de vous, de vos photographies, de ce qui vous avait amené à choisir le métier de photographe, si on peut parler de métier parce que c'est plutôt une passion, un métier passion on va dire. On a parlé des grands voyages et de musique aussi, puisque vous venez d'une famille, comme vous l'avez dit, de musiciens. Et ce choix de Nina Simone, je vous en remercie, puisqu'on est une radio qui est spécialisée en jazz. Mais justement, dites-moi ce qui vous séduit chez cette femme.
Nina Simone m'a toujours bouleversé. C'est, d'abord, on ne peut pas ne pas parler de sa voix qui est tellement particulière, une voix qui est inclassable, qui n'appartient qu'à elle, on ne peut pas l'imiter. Ensuite, c'est une cantatrice, moi ma mère était cantatrice, donc forcément ça me touche. Ensuite, elle est noire, elle parle en filigrane de la souffrance et de la beauté, de l'histoire des Noirs aux États-Unis, et dans des morceaux. Elle est aussi pianiste, c'est une femme complète et admirable, je l'adore.
Et alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand vous parlez de cette mise en balance de la souffrance et de la beauté, c'est aussi ce qu'on sent dans vos photographies, une sorte de mise en abîme d'un certain chaos. Donc avec cette beauté qui est toujours irradiante, qui sont finalement la recherche des coins de bonheur, mais aussi cette tragédie aussi de la condition humaine.
Je ne peux pas ne pas me rappeler de la phrase de Nietzsche dans Ecce Homo, où il parle de souhaiter à ses meilleurs amis de passer par des instants de souffrance pour qu'ils trouvent le chemin de leur essence. Bon, sans être masochiste, évidemment, on ne doit pas rechercher ça, mais si ça nous tombe dessus, il faut comprendre et il faut dépasser et il faut transcender. Et c'est ce que font les grands artistes.
Et est-ce que vous, la photographie, vous aide à ça ? Personnellement.
Alors, la photographie, c'est un média. J'aurais pu écrire. C'est un média dans lequel je suis très à l'aise. Probablement, j'ai un don avec mes yeux. Je vois très large. Je vois beaucoup de choses. Bon, donc chacun doit utiliser les dons. Chacun a des dons. Chacun doit utiliser les dons qu'il a pour essayer d'être au mieux.
Ecce Homo, c'est d'ailleurs le titre d'une de vos séries, je crois.
C'est le titre d'une œuvre.
D'une œuvre en particulier.
Oui, oui.
D'accord. Une quête de spiritualité.
Mais ça vient par conséquent, parce que le spirituel aujourd'hui c'est une chose assez galvaudée. Il faut entre la théorie et la pratique, il faut passer à la pratique.
Et vous croyez en quoi vous?
Oh là là, vous voulez que l'émission soit interminable là.
Oui, oui. On a quelques minutes encore.
Je crois en la beauté, je crois en l'homme, mais en même temps, il me désespère. C'est difficile de croire. Je suis plutôt dans l'action que dans la croyance. Bon, après, les choses se placent au fur et à mesure de notre chemin. Et vous faites les rencontres qu'il faut. Il y a des choses mystérieuses qui se concrétisent. J'en ferai pas une théorie.
Et est-ce que vous avez des grands photographes que vous regardez comme de temps à autre qui vous inspirent? Bon, c'est une question un peu bateau des influences, mais je pense que ça peut être intéressant quand même.
Alors mes influences, elles ne sont pas seulement photographiques, elles sont plasticiennes en général. Je suis toujours bouleversé par les peintres italiens de la Renaissance, par les peintres flamands, par même des peintres contemporains qui me charme complètement, comme Soulage. Mes influences photographiques, quand j'ai compris que j'avais un langage visuel, je me suis précipité sur les grands photographes. Et donc, c'est les premiers photographes humanistes que j'ai adorés. Bien sûr, je ne peux pas oublier Cartier-Bresson, Villironis, Brassailles, Ed van der Alsten, des gens comme ça. Et puis, mais c'est un ensemble d'influences, même musicales, même la musique m'aide pour ce que je fais. Mais à la limite, je préfère même que ce ne soit pas des photographes qui, qui m'inspirent pour que je continue à creuser mon langage à moi et ne pas être trop influencé.
Et vous disiez justement, juste avant l'émission, je crois que vous me disiez que c'est en partie grâce à la musique que vous avez trouvé votre langage photographique.
Oui, parce que la musique et l'écriture. La musique et l'écriture.
Une sorte de composition, alors.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de séparation entre ces domaines. C'est vraiment... on convertit le signal. C'est la même logique.
Voilà. Oui, bien sûr. Et alors, évidemment, on vous présente souvent comme un photographe de noir et blanc, mais vous ne faites pas que du noir et blanc. Vous venez parfois à la couleur. Alors, je ne sais pas si c'est récent.
Alors, j'ai commencé... ma vie de photographe par la couleur.
Ah voilà, donc c'était au début, pardon. Oui, j'ai mal lu la bio. Hein.
Oui, c'était tout à fait au début, quand je suis allé dans le Sahara, mais dès le début, les couleurs correspondaient à des formes, à des surfaces précises, elles avaient une fonction. Donc ça a donné tout de suite une exposition à l'espace Canon qui s'appelait « Jeux de sable », qui était des jeux entre lignes, architecture, du sable, et des couleurs qui correspondaient chaque fois à des espaces très limités. Et après, quand je me suis instruit des photographes humanistes, j'ai voulu faire du noir et blanc comme tout le monde, et j'en ai fait. Et puis j'ai fait beaucoup de voyages où j'ai fait de la photographie humaniste. D'ailleurs, j'ai un livre qui est en préparation, qui va s'appeler « Je ne vous ai pas oublié », où il y aura tout ce passé de photographe humaniste auquel je tiens, et qui est un petit peu la fondation de mon travail. Il n'y a pas tellement de... Bon, on ne peut pas reconnaître, mais c'est une énergie qui continue dans mes créations d'aujourd'hui.
Et vous parliez évidemment des influences picturales. Bon, vous avez cité Soulages. Bon, c'est vrai qu'on pense au noir qui a plusieurs nuances, qui a d'infinies nuances, on va dire.
Alors, ce n'est pas une influence, parce que quand j'ai commencé mon travail, je ne le connaissais pas. Mais c'est une affinité profonde.
Oui, c'est ça. Vous avez ensuite compris, en regardant son travail.
C'est une affinité.
Et le noir, la lumière du blanc, la lumière du noir aussi.
Le noir a une signification pour moi quasi philosophique, justement, parce que c'est l'origine de tout. Au début, il y avait le chaos. Tout était noir avant que la lumière n'apparaisse. C'est un espace de germination. Tous les possibles sont là. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que l'embryon dans l'utérus, il est dans le noir. Les peintures des premiers hommes dans les cavernes, il y a 40 000 ans, étaient dans le noir. Pompéi, avant d'être découvert, était sous une enveloppe de cendres. Tout ça correspond au noir.
Alors, on va faire une deuxième petite pause. On va justement se délecter un peu de la musique de Michel Petrucciani.
Oh oui, le bonheur.
Voilà. On va penser à de la peinture peut-être en l'écoutant, ou à de la photographie, je ne sais pas. En tout cas, on écoute le titre « Cantabile » et on se retrouve juste après.
Thank you.
Voilà, c'était Cantabile de Michel Petrucciani et je suis avec vous, Michel Kirsch. C'était donc votre deuxième choix dans cette émission, votre deuxième choix musical. Michel Petrucciani, évidemment, le grand Michel Petrucciani qu'on adore tous. Quelle émotion ici ?
Ah, c'est l'exemple parfait de ce que la douleur peut donner de beauté et de jouissance. C'est quelqu'un qui, quand vous le voyez au piano, la seule chose qui est grande, ce sont ses mains. C'est ce dont il a besoin pour être connecté avec vous, avec le ciel. Mmh. C'est un exemple parfait de comment on convertit quelque chose qui est difficile en quelque chose qui est sublime. Petrucciani, c'est un peu la continuité de Nina Simone quelque part, mais... c'est aussi quelque chose qui va au sublime en partant d'une très grande difficulté. Ça, j'admire énormément.
Michel Petrucciani, évidemment, donc comme vous le dites, a cette faculté à nous émouvoir aussi par cette musique. La photographie chez vous a aussi cette faculté, j'allais dire, à nous émouvoir, mais à nous faire réfléchir. Il y a une sorte de grandeur un peu tragique dans vos photographies. Vous recherchez quoi exactement ? Est-ce que quand vous travaillez par série, par exemple, comme des gammes un peu en musique, je ne sais pas ?
Alors, les gammes, c'est plutôt la technique. Mm. Mais les séries, c'est plutôt le sens. Bon, quand je vais en voyage et que je suis en quête, en chasse, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mm. Je n'ai pas de projet dans la tête. Pourquoi ? C'est intentionnel. Mm. Parce que je veux que le mental se déconnecte pour arriver à des choses qui sont profondes en moi, qui sont enfouies et que je ne connais pas forcément. Et... pour moi, être artiste, c'est ça, c'est laisser la surprise advenir, la surprise qui est blottie en vous, que vous ne connaissez pas encore. Sinon, on devient un ingénieur de la photo, on devient un technicien, on devient un architecte, mais si on veut être un artiste, il faut laisser faire. Et donc, il y a une première phase qui est totalement instinctive, il faut laisser faire. Donc, le voyage m'y aide, parce que dès que je suis en voyage, je déconnecte. Donc, je laisse mon inconscient me guider. Je le laisse appuyer sur le bouton. Donc, ça, c'est la première phase. Quand je reviens à la maison, j'ai des images et je prends mes photos traditionnellement en argentique, avec des moyens formats. Je reste très traditionnel. Et dès que j'arrive à l'atelier, alors là, je deviens très high-tech parce que je convertis tout ça dans des fichiers électroniques. Je scanne, je convertis, je fais des fichiers. Après, il y a tout un travail qui s'approche plutôt du travail de peintre, qui est un travail patient, conscient, fait de retouches. Ça peut prendre énormément de temps.
Oui, c'est un gros travail, c'est ce que j'allais dire. C'est là que vous aimez ce terme photographe plasticien parce qu'il y a ce travail... plus raisonnable, entre guillemets, de toute une composition.
Plus conscient, oui. Mm. Les choses vont advenir à la lumière. Mm. Ce qui était blotti jusqu'à maintenant va fleurir. Si je peux faire une petite métaphore, quand je pars en quête, je suis encore dans les racines. Mm. Donc, et je ne sais pas encore ce que ça va devenir. Et puis quand je suis dans l'atelier, les choses commencent à fleurir. Mm. Jusqu'au moment où je sais que c'est abouti à la façon d'une phrase musicale.
Mais alors là, vous créez des paysages, des fantasmagories. Il y a beaucoup de symboles aussi qui émaillent vos images.
Oui, la différence avec la photographie traditionnelle, le photographe, il prend le monde tel qu'il est. Moi, je prends le monde tel que je suis. Donc, quelque part, je crée des mondes.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça qui me plaît énormément. C'est une jouissance folle de faire ça. Je ne suis pas du tout un artiste dans la douleur. Au contraire, c'est le contraire. Moi, j'ai des moments d'extase absolue dans mon atelier.
Mais alors, à l'instar un peu des artistes de la Renaissance, vous vous amusez quand même avec des formes symboliques. On retrouve la sphère, la pyramide, la tour de Babel... la ligne, des correspondances de cadrage, de lumière. C'est aussi très subtil.
Oui, et puis j'aime bien entrer en résonance avec des symboles comme ça universels qui font le lien entre tous les humains, entre tous les artistes, quelle que soit l'époque. J'aime bien des choses qui sont intemporelles et qui continuent leur énergie, et c'est pas pour rien, il y a un sens là-dessous. Je suis plus, bon, moi, évidemment, les artistes doivent impérativement, pour exister, être innovants. Mais j'aime aussi l'idée qu'on vient de quelque part et de respecter nos pères et nos grands-pères et de faire quelque chose de tout ça qui soit très personnel, mais sans forcément être dans la rupture.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'humain est pratiquement toujours présent, hein, que ce soit de manière très minimale ou bien plus foisonnante. Et vous aimez travailler le corps, enfin, la photographie du corps, c'est parfois un peu érotique même. Le corps, ça, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est rapport à la médecine peut-être, je ne sais pas.
Non, par rapport à la nudité, c'est-à-dire être nu, mais dans sa version métaphorique, c'est-à-dire être humble face à toute cette beauté, toute cette création, tout ce foisonnement, toute cette incompréhension.
Donc là, il y a l'idée d'origine à nouveau.
Oui, alors bon, dans mes photos, je fais souvent cohabiter la nudité avec ce que j'appelle les businessmen complets. Donc, opposition entre...
les complets vestons.
Oui, c'est ça. Oui, ça existe dans mon travail. Et cette confrontation entre nos origines, notre nature profonde qui est en osmose avec la nature, et puis l'homme qu'on a fabriqué, qu'on est devenu. Et donc, le chemin entre ces deux hommes-là est particulièrement intéressant.
Et alors, vous vous inquiétez aussi quand même, en tant qu'artiste, photographe, qui a un regard sur un peu la décadence de notre monde, peut-être.
Je crois que c'est un petit peu le rôle des artistes aussi, d'être des témoins de leur temps. Les artistes sont souvent des éponges, et les inquiétudes, évidemment, sont là pour tout le monde. Donc, les ignorer dans le monde de l'art, je crois que c'est passer à côté d'une fonction essentielle de l'art.
Parce que dans certaines de vos images qui sont beaucoup plus saturées de motifs, hein, y a un petit côté, j'allais dire félinien, parce que voilà, on est dans une espèce de rêve comme ça, complètement, où nos désirs peuvent transparaître. Et puis, à contrario, d'autres photographies sont beaucoup plus géométriques, cadrées. Finalement, vous vous amusez avec plusieurs styles quand même.
Oui, du moment que ça fait une cohérence. Pourquoi pas... Bon, c'est vrai qu'il y a des photographies qui sont totalement minimalistes. Et il y en a d'autres qui sont
beaucoup plus baroques.
Plus baroques, c'est le cas de le dire, oui, absolument. Mais dans les deux cas, vous pouvez me reconnaître. Donc, c'est un langage plastique qui est pluriel, mais qui est parfaitement cohérent.
Alors, vous avez beaucoup exposé, Michel Kirsch. Vous avez eu des prix de photographie également. C'est toujours un plaisir pour vous de montrer votre travail.
Je crois que l'art n'existe pas sans partage. Et je pense que l'œuvre d'art est complète quand elle est observée par un tiers. Et il y a une espèce d'énergie circulaire entre l'artiste, l'œuvre d'art, et celui qui regarde l'œuvre. Et cette énergie, je pense qu'elle est essentielle à l'artiste. Et non seulement ça l'encourage, hein, c'est vrai que ça l'encourage, c'est très stimulant, mais en plus ça le fait vibrer.
Et actuellement, vous travaillez sur de nouvelles séries, vous continuez les anciennes. Qu'est-ce qui vous émeut là, tout de suite?
En ce moment, je suis sur un projet un petit peu cosmique. Bon, je vais un petit peu dans les étoiles, mais toujours avec l'être humain qui regardant. Je suis sensible au fait que l'être humain quelque part est un miroir de l'univers. C'est-à-dire l'univers se regarde en lui et vice versa. Et l'univers est conscient de lui-même grâce à l'être humain. Donc ça, je le montre souvent.
Et ce que vous montrez souvent, moi, ce que je t'ai trouvé assez joli, c'est effectivement la manière dont vous avez d'essayer toujours de chercher, même dans des histoires qui peuvent être tristes ou terribles, ces petits bouts, ces petits morceaux de bonheur, de lumière. Je crois qu'il y a une série qui s'appelle « Au-delà du mur », où c'est tout à fait le message.
Alors, mes images, elles sont jamais totalement désespérantes ou totalement joyeuses.
Justement, c'est ce que je voulais essayer de dire. Ouais.
Pour moi, le monde est beau et laid à la fois. Mm. Je ne veux pas l'idéaliser. Je ne veux pas non plus me désespérer. Je retiens l'harmonie qu'il y a entre ces deux complémentaires. Et mes œuvres en général sont faites de cette harmonie, de cette confrontation. C'est une harmonie faite de confrontation. Mm. C'est pas une harmonie douce. Mm. C'est une harmonie qui souvent a des chocs en elle. Mais ça s'équilibre.
Alors, pour découvrir votre travail, Michel Kirsch, il faut aller au Salon d'automne. Et puis ailleurs aussi, bien sûr. Vous avez d'autres actualités,
Une semaine après le Salon d'automne, oui. J'ai la galerie Saphir qui m'a invité pour son 40e anniversaire à investir toute la galerie. C'est rue du Temple, à Paris, dans le Marais.
Alors, on pourra du coup vous retrouver très vite. En tout cas, on peut vous découvrir du 10 au 13 octobre au Salon d'automne. Est-ce que vous serez sur place un jour ?
Je serai sur place le 9 octobre pour le vernissage.
D'accord.
Au soir, le soir.
Ah oui, il y a le vernissage le 9, oui. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Oui.
Et puis, je viendrai peut-être pour certains ateliers, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore.
Et qu'est-ce que vous conseillerez à un visiteur qui vient pour la première fois au Salon d'automne ? Qu'est-ce que vous lui dites, le conseil de l'artiste ?
Perds-toi.
Je crois qu'on peut effectivement se perdre. Hein. Donc, comme je le disais, je crois 870 artistes sont représentés. Alors, le Salon d'automne, vous l'avez dit au début, s'internationalise.
Il y a 45 pays représentés, 5 continents.
C'est ça. Et je crois qu'une partie des œuvres et des artistes vont aussi voyager dans d'autres pays partenaires assez régulièrement maintenant.
La Chine, le Japon.
Tout à fait.
Oui.
Et vous avez d'ailleurs... Tout à l'heure, vous m'avez...
Moi, j'ai connu le salon en Israël.
Voilà, à Jaffa. Donc, c'est un rendez-vous artistique incontournable qui existe, je le rappelle, depuis 1913. Donc, c'est une entrée libre en plus au Salon d'automne. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est sur les Champs-Élysées. Michel Kirsch, merci beaucoup de nous avoir présenté votre travail. On a justement parler de tout ce qui fait l'émotion de l'art aujourd'hui. Et puis, on va se quitter en musique, évidemment.
Merci de votre accueil, j'ai passé un très bon moment.
Alors, le choix de musique, vous voulez le dire ou je le dis ?
C'est une œuvre qui a été créée pour le Pina Bausch. Dites la suite.
Ah ah. Alors, c'est une œuvre de Tom Hanreich.
Voilà.
Je ne sais pas si je le prononce bien. Pour Pina Bausch. Ça s'appelle Rooftop Falling. On va l'écouter tout de suite. Mais juste avant, justement, ça m'a interpellée. Parce qu'on parlait des corps tout à l'heure. La danse, c'est quelque chose... peut-être aussi la danse des corps dans vos photos qui vous plaît. Est-ce que vous allez regarder des spectacles de danse ?
Ça m'arrive surtout pour des spectacles de danse buto, Sankei Juku, des gens comme ça. Mais la danse, oui, c'est de la photographie animée.
Voilà, c'est ça. On va se quitter donc là-dessus. Merci beaucoup, Michel Kirsch.
Merci.
On écoute tout de suite donc Tom Hanreich pour Pina Bausch. Et on vous retrouve évidemment au Salon d'automne la semaine prochaine. Merci.
Merci, au revoir.